en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. C'est de la relation que l'académicien Julien Green entretenait avec l'Italie que nous allons parler dans cette émission en compagnie de Giovanni Dottoli, professeur de langue et de littérature française à l'Université de Paris, qui a consacré un livre aux voyageurs français en Italie intitulé « Le jardin d'Italie ». Il est paru aux éditions Honoré Champion à la fin de 2008. Il y a de nombreux voyageurs français qui ont été fascinés par l'Italie. On ne pourrait citer tous les noms, mais on peut dire au moins Chateaubriand, Stendhal, Yves Bonnefoy, Cocteau, Morand, Camus et Pierre-Jean Rémy et Dominique Fernandez. On ne peut les citer tous et aujourd'hui nous évoquons Julien Green. Bonjour Giovanni Dottoli.
Bonjour Madame Renard, bonjour à tous les auditeurs de Canal Académie.
Je voudrais seulement rappeler, si vous me le permettez, avant de vous céder la parole, rappeler quelques mots. Julien Green, de son vrai nom Julian Hartridge, est né à Paris le 6 septembre 1900 de parents américains établis en France depuis le 19e siècle. Et il est le premier académicien, on pourrait dire, américano-français, bien que, notons-le, il n'ait jamais acquis la nationalité française. Il aurait pu l'obtenir, mais il l'a, je crois, plus ou moins refusé, en tout cas au président Pompidou. Très jeune, pendant la Première Guerre mondiale, quand il a 17 ans, il s'engage comme ambulancier du côté américain. En 18, il est détaché dans l'artillerie française. Il est démobilisé en 19. Et à cette date, il se rend en Amérique. Il achève ses études à l'Université de Virginie. Il revient à Paris et il commence à publier des livres. Alors, le premier de ses livres, sous un pseudonyme, et on va comprendre pourquoi, Théophile de la Porte, s'intitule « Pamphlet contre les catholiques de France ». Au moins, la couleur est annoncée. Arrive la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé en 1942, toujours en Amérique, et puis en 1945, il revient à Paris. Alors, Julien Green a été élu, il faut le dire, dans de très nombreuses académies européennes, en Bavière, à Mayence, à Mannheim, l'Académie royale de Belgique et l'Académie française, avant de le choisir comme l'un des siens, avait couronné son œuvre littéraire déjà dans les années 1970. Et d'autres pays aussi, il avait beaucoup couronné, il a reçu beaucoup de prix. À l'Académie française, Julien Green est élu le 3 juin 1971. Il succède à François Mauriac et il est reçu sous la coupole par Pierre Gaxotte en novembre 1972. Alors, il semble que Julien Green, en 1994, ait pris la décision de se retirer en Italie. Mais finalement, Giovanni Dottoli, a-t-il pu mener ce projet à bien? S'est-il retiré en Italie?
Pas vraiment.
Pas vraiment.
Donc, il est venu en Italie beaucoup plus souvent, mais il ne s'est pas retiré en Italie.
Alors, quand y est-il allé pour la première fois?
Pour la première fois, c'est étonnant. Il a aimé l'Italie presque dès son enfance. Alors, dans son journal du voyageur, il écrit « Et pourtant, si en un éclair on reconnaît l'Italie, si le décor est de famille et si les voix modulent tout autrement à Gênes et à Tarente, ce n'est pas là la différence. Les nuances viennent du caractère même des cités. » Donc, comme Stendhal, il insiste sur les différences entre les villes italiennes. Certaines sont sérieuses, d'autres, malgré palais, couvents, rient au soleil. Et quoi? Et voilà, je suis amoureux de l'Italie depuis le jour de mes 16 ans où je me suis trouvé seul dans une rue de Venise. Puis, un peu plus tard, chez une de mes sœurs à Rome, puis chez une autre à Gênes. Donc, cette déclaration que nous retrouvons dans son journal du voyageur est pour nous fondamentale, parce qu'il nous dit qu'il a voyagé à travers l'Italie dès l'âge de 15-16 ans,
qu'il et que sa soeur, famille y était. Voilà,
voilà, donc, que en ça, tout cas, ça, oui. Une de ses sœurs est vie à Rome.
Et l'autre à Gênes.
Une autre sœur à Gênes. Donc, il faut supposer qu'il est venu en Italie beaucoup de fois, même si les traces dans son œuvre ne sont pas si nombreuses.
Alors,
sinon,
c'est
dans ce journal du voyageur qui date de la fin de sa vie, quand il a un peu pensé à cet immense journal de 15 volumes qu'il publiera dans les années 80. Mais là,
Il y va. Au fond, s'il est né en 1900 et qu'il y va, il a 15-16 ans, c'est pendant la Première Guerre mondiale.
Au tout début de la Première Guerre mondiale.
Avant d'être mobilisé.
Où Cocteau est à Venise. Et il continue en disant « L'Italie fait partie de ma jeunesse et je fais mien le cri des Troyens qui tend Carthage. Italie, Italie. Les villes que je préfère ont toujours été doubles, rêveuses et turbulentes. Est-ce une projection profonde de leur moi et du mien ? Ville d'université le plus souvent. » Parce que bien sûr, il faisait des conférences à droite et à gauche. L'Italie est faite de ces petites capitales où l'univers expire aux portes de la cité. Notation capitale pour nous, parce que, encore une fois, en imitant Stendhal, il voit que chaque ville italienne a sa culture, sa tradition. Il y en a qui ont été des capitales importantes. Et il ajoute que c'est cela qui explique cette présence importante de monuments, de châteaux, de ponts, d'architecture.
Oui, c'était toutes des capitales.
Oui, c'était toutes des capitales. Et donc, tout cela se reflète dans la situation actuelle. Il se considère presque comme un Italien, parfois. Et on lira des passages après. Et on verra que vraiment, c'est un des grands écrivains français, même s'il écrivait même en anglais, comme on le sait, qui continue cette tradition du jardin d'Italie qui arrive jusqu'à Yves Bonnefoy et jusqu'à Dominique Fernandez. Il adore cette multiformité italienne, cet art de vivre qui a une idée générale de la vision du monde, mais qui est différent d'une ville à l'autre. Et il trouve cet art de vivre même dans les villes anciennes. Si on lit par exemple le passage qu'il consacre à l'Étrurie, donc nous sommes avant Rome, le passage du journal du voyageur s'appelle « Éternelle ville des morts » et là il écrit « En Étrurie, ce sont les morts qu'on vient voir. Les touristes s'imaginent passer le fleuve des enfers pour le prix d'un billet de spectacle. Mais cependant, ce sont les villes des morts qui sont vivantes, vivantes muettes d'une civilisation disparue dont la langue reste indéchiffrable. Souterraines, elles attirent dans leurs maisons, ou pour oublier le monde de surface, une vie nouvelle n'en perpétue que les plaisirs. En dessous de Chiusi, d'Orvieto, de Cerveteri, de Tarquinia, dorment des rêves de plein air, images de festins et de joie sensuelles. Un Josué d'outre-tombe a arrêté un soleil noir et les désirs d'une vie animale sont fixés à jamais dans des secondes mortes. Je continue parce que ce passage est vraiment capital pour comprendre non seulement Julien Green, mais probablement tous les voyageurs français en Italie, parce qu'ils retrouvent cette enfance morte et ce désir de bloquer le temps sur le passé. La vie réelle n'était-ce que cela, et la mort n'est-ce qu'un escalier ténébreux aux marches incertaines, ces antichambres et ces chambres où les murs sont des champs de regrets. La vie était magnifique. La vie d'autrefois. La jeunesse avait le monde pour elle. Rome a mis un terme à tout cela. Mais Rome n'était qu'une figure du temps qui est le seul vainqueur de tout combat particulier avec la vie. On dirait que c'est une page de Chateaubriand. Chateaubriand qui arrive, quand il arrive à Rome, qui est frappé par les ruines de la banlieue de Rome, du Latium, mais tout autour de Rome. Et là, probablement, Julien Green a dû lire Chateaubriand et tous les Français qui ont décrit sur ce monde du passé qui n'est pas un monde archéologique. C'est un monde vivant, comme le dit justement Julien Green. C'est la mort qui nous prouve que la mort est le moment, un des moments les plus importants de notre vie. Ce n'est pas fini, ça continue sur le visage des monuments, de la terre, des tombes qui sont là. Donc, éternelle ville des morts. C'est des villes des morts, mais qui restent éternelles. Et cet aspect de la vision de Julien Green à l'égard de l'Italie, on le retrouve dans toutes ses pages. Souvent, il se demande n'importe où, où sommes-nous ? Eh bien, c'est vraiment la question qu'il se pose autour de 1970, quand il est à Lucca, en Toscane. Il s'écrit « Où sommes-nous ? » En Italie, certes, mais quand ? Toujours le lien avec l'art de vivre dans le temps. Et il écrit « Au temps de Rome se levait un amphithéâtre dont l'ovale parfait a été transformé en place du marché, un peu comme à Sienne. Les maisons qui l'entourent, construites sur les gradins, sont de couleurs assez vives, salies par le temps. » Toujours le problème du temps. « C'est la misère qui règne là. Mais l'invincible insouciance du pauvre y est aussi dans le linge multicolore qui sèche aux croisées. Le soleil apparaît de temps en temps. Les rues étroites étalent leurs ordures comme on exhiberait des entrailles dans une boucherie mal tenue. La porte d'une grande maison en briques est ouverte et nous découvrons un splendide escalier avec des loggias florentine, mais surtout un jardin de statues, jardin d'Italie, qui conduit à une nymphée où, soudain, le temps n'existe plus. Où sommes-nous ? En Italie, certes, mais quand ?
Donc tous ces passages, toutes ces mentions de l'Italie, on les trouve essentiellement dans ce journal, parce que Julien Green a beaucoup écrit, et dans ses autres romans, il y a peu de choses sur l'Italie.
Parce que dans les autres romans, il fait plutôt toujours une comparaison entre les États-Unis et l'Europe. Il est pris entre deux feux, donc il est français, mais en même temps, il se sent américain, d'ailleurs le fait qu'il a participé à la Première et à la Seconde Guerre mondiale
du côté
dans l'armée américaine,
bien sûr,
donc
oui.
Le prouve, et même le fait qu'à un moment donné, il a dit qu'il renonçait au siège de l'Académie, parce qu'il se considérait plutôt américain. Donc,
mais
à
il
la
n'a pas vraiment
vie,
renoncé,
oui.
Enfin, il n'a pas vraiment démissionné, mais en tout cas l'Académie ne l'a pas remplacé, donc il y est resté finalement jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort.
C'était un écrivain formidable, mais qui avait
tourmenté, tout de même.
Voilà,
très tourmenté.
Parce qu'il il
vivait
mal
son homosexualité,
Mais il réussit à voir l'Italie d'une façon, je dirais, très romantique. Il fait un itinéraire romantique. Il voit le mirage italien. Il voit que la ville italienne est une conception du monde, que cette ville est un songe. Et donc, sa géographie de l'Italie est un peu magique, comme si les monuments qu'il voit étaient des temples du rêve. Un exemple, Rieti, c'est une ville que nous n'avons jamais citée jusqu'à ce moment. Rieti, c'est dans le Latium. Et là, il décrit, il dit, le Val s'est montré dans, tout le long du jour dans une gloire dorée. Même au plus chaud de l'après-midi, il y avait une douceur qui enveloppait, non, qui sortait des choses. Les champs, les vergers, les petits bois respiraient cette atmosphère heureuse qui séduisit en son temps François d'Assise. Le bleu du ciel découpait les sommets neigeux, là-bas, dans les lointains, comme s'il fallait ces montagnes pour protéger cet Éden. Nous avons visité les villages sur les hauteurs et c'est dans les derniers rayons qui orangeaient les murailles que nous sommes entrés à Rieti. La ville était fort animée. Donc d'un côté, le passé, le paysage, le jardin, la beauté d'autrefois, les champs, les vergers, les petits bois. Et puis, c'est l'actualité, cet art de vivre que l'on voit dans les rues, La ville était fort animée. Des motos nous rejetaient sur les trottoirs. Mais tout à coup, à cette heure précise, les rues, en moins de 2 minutes, se vidèrent. J'avais déjà observé le même phénomène à Pise. Intérieurement, je l'appelais l'heure du prosciutto. Le prosciutto, c'est le jambon. Nous allâmes dîner. Donc voilà cette capacité énorme de ce romancier français de décrire ces villes phares, les grandes et les petites villes, comme des rêves, comme des fantômes, comme des paysages du passé, mais en même temps des paysages vivants où on vit au jour le jour. Et l'Italie apparaît à la France comme une sorte de scène d'opéra. Et la confirmation, nous l'avons dans une autre ville qu'il visite en Ombrie, qui est Todi. Todi, c'est une très très belle ville, mais rarement on y va pour, disons, le long du voyage en Italie. Et là, cette page étonnante sur les rues italiennes qui nous rappelle Stendhal, mais qui nous rappelle surtout la musique, la grande musique des opéras italiens du XIXe siècle. Les rues italiennes sont des opéras. J'ai toujours été séduit par leur théâtre. Tout est en place. Le décor, les voix, la façon que le peuple a de se placer, comme si l'espace appelait un groupe ou un seul personnage, en situation en quelque sorte. Mais cela n'a rien à voir avec l'artificiel. Les coulisses font partie de la scène. C'est l'instinct profond de l'homme, son sens de la comédie et du drame, si proche, si intimement mêlé, on pourrait dire conjoint. C'est la vie qui court ou s'arrête dans ces rues chères à mon cœur. Et pourtant, si en un éclair on reconnaît l'Italie, si le décor est de famille, si les voix modulent tout autrement à gêne et à tarente, ce n'est pas là la différence. Les nuances viennent du caractère même des cités. Certaines sont sérieuses, d'autres, malgré palais et couvents, rient au soleil. On avait déjà
cité
ce passage
cette phrase,
au début.
Oui, c'est important, oui.
Du début. Donc, je pense que cette idée d'opéra reste fondamental. Il ne faut pas oublier que l'opéra est né en Italie, pas ailleurs, et ne pouvait que naître en Italie, parce que les rues apparaissent comme des lieux de théâtre, les places sont des scènes théâtrales, où rien n'est artificiel, où les coulisses font partie de la
oui,
scène.
Oui, comme il le dit, effectivement.
Voilà, ce n'est pas derrière, c'est devant. Donc, tout ce théâtre, c'est un théâtre qui se montre, et que Julien Green adore, pris par cet enchantement, par cette mélodie, par ces coupoles. Et cette mélodie, il la retrouve non seulement dans la rue, disons, il la retrouve aussi dans l'art baroque, de la façon de manger, de l'alimentation, dans les restaurants, dans les devantures des magasins d'alimentation. Et par exemple, il est là à Bergame. C'est une autre ville que d'habitude on ne visite pas vraiment. Hein. Nous sommes au nord de l'Italie, cette fois-ci à 50 km de Milan. On sait que la ville est divisée en deux. Il y a la ville de Bergame haut, dans les collines, et la ville moderne qui est dans la plaine. Et il le remarque. En haut, dans la vieille ville, au détour de la rue étroite qui tourne en montant, une boutique nous lance au visage ses deux vitrines bourrées de brioches et de panettones de toutes sortes, où brillent des morceaux de cédra et de verte angélique, une décoration de petits pains étranges et de gâteaux meringués, un vrai retable baroque. Le baroque dont je parlais. Et plus loin, ce sont des bouteilles de toute taille, certaines dans leur corset de paille grimpant tout au haut de leur col de héron, qui à leur tour témoignent de la fantaisie d'un épicier, n'en déplaise à Balzac. Je pense à moi-même, jamais 203. Verrai-je une façade de jambon Et la voilà. Le Parme et le Saint-Daniel s'entrecroisent. Des salamis pendent. La mortadelle offre à l'œil étonné des tranches roulées et piquées sur de fines aiguilles de bois. Ces fanions de la gourmandise victorieuse partent à l'assaut des tomates, artichauts et champignons confits dans l'huile et pressés dans leur citadelle de bocaux. Je pense que vraiment, c'est une description qui correspond à la réalité.
C'est très appétissant.
C'est très appétissant, voilà. Et c'est une pub, de la publicité
importante
pour les produits italiens. Et il continue en ce qui concerne les pâtes. Un grand éloge des pâtes. Mais le plus beau reste à venir. Un triomphe de pâtes. Autant que j'ai pu voir, car une foule s'y pressait, la boutique entière se tapissait, comme le palais de Dame Tartine, de lasagnes, spaghettis, cappelletti et autres tagliatelles, avec tout autour de la devanture, en rose, en rouge tomate, en vert éteint ou couleur d'épinard, des tortelloni formant des paysages à rendre jaloux Arsène Boldo et mon père. Cependant, nous allons déjeuner sur la place. Le restaurant est aussi joyeux que la piazza semblait austère, magnifique, mais austère avec son palazzo della ragione, grande halle sombre, sans doute par association d'idées. Donc,
on a découvert un Julien Green gourmet grâce
gourmet
à vous, véritablement.
Moi, je pense que vraiment, il faudrait lire ces pages de Julien Green qui ne font partie d'aucune anthologie des voyageurs français en Italie.
On l'oublie.
Pour moi aussi, ça a été une grande découverte.
Ah oui.
Et je pense qu'il y a de la matière vraiment à étudier parce qu'il a le sens de l'histoire, d'un côté, et de l'autre, il a le sens de la vérité, du jour le jour, de cette gaieté des Italiens, en n'oubliant jamais les problèmes réels de l'Italie. C'est une sorte de prototype de voyageurs français à l'art de vivre en Italie. Et c'est à ce titre que nous l'avons proposé aux auditeurs de Canal Académie.
Eh bien, merci Giovanni Dottoli, parce que grâce à vous, on a vraiment eu l'approche d'un autre Julien Green que celui qu'on connaissait, l'homme un peu tourmenté, en effet. Je précise d'ailleurs qu'il y a évidemment quelques informations relatives à Julien Green sur le site de l'Académie française, que notre collaborateur Jean Roulet, dans son agenda littéraire, a consacré une de ses critiques littéraires sur le roman « Sud » de Julien Green, et que l'on peut trouver sur Canal Académie. Toutes les émissions que nous avons proposées avec Giovanni Dottoli sur ces voyageurs français en Italie, en tapant simplement le mot-clé « Italie », on tombe dessus facilement. Je rappelle donc que nous avons consacré des émissions à Cocteau, Stendhal, Camus, Chateaubriand, Lamartine, Zola. Une belle série grâce à vous, Giovanni Dottoli. Merci.
Merci, Madame Renard. Et je suis vraiment heureux de pouvoir être toujours sur cet axe d'amitié franco-italienne qui est un modèle dans l'histoire.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt. Merci.